je voudrais, pour commencer là ce soir, regrouper trois phrases, trois citations que j'avais faites la fois dernière, mais les regrouper parce que elles concernent la question de ce qui fait surface et temps à la fois, avec les nœuds plus précisément. Question donc que nous avons vue la fois dernière, qui est une des portées, disons, du propos que j'essaye de tenir. Ces trois citations de Lacan, donc, que la première, c'est en fonction des nœuds que nous devons penser l'espace et non le contraire. Deuxième, c'est à des endroits différents, hein, mais je les regroupe. Cet espace est structuré par le langage, car il fait partie de l'inconscient. Troisièmement, l'espace implique le temps, et le temps n'est peut-être rien d'autre qu'une succession des instants de tiraillement. Ça exprimerait assez bien le rapport du temps à cette escroquerie qui se désigne du nom d'éternité. Voilà. Alors, sur la question de, justement, de... Donc, vous voyez, c'est toujours le temps, l'espace, comment la jonction du temps et de l'espace, comment il s'associe en quelque sorte. En ce qui concerne cet espace structuré par le langage, je vous rappelle que la première fois que Lacan a fait état de sa découverte du nœud borroméen, c'était en 72, 9 février 72, dans le séminaire Oupir, et il l'a fait à partir de trois phrases grammaticales avec trois verbes ternaires. Donc je vais citer le nœud borroméen. L'une, je te demande de refuser ce que je t'offre. Oh, ben, parce que c'est pas ça. C'est effectivement pas ça du tout. Donc vous voyez que c'est dans une correspondance là de que c'est en fonction des nœuds et que c'est parce que l'espace est structuré par le langage qu'il y a quelque chose dont les nœuds se font support. Se font support de quoi? Là, de ces trois phrases avec trois verbes ternaires. Demander, c'est-à-dire demander quelque chose à quelqu'un, refuser quelque chose à quelqu'un, offrir quelque chose à quelqu'un, c'est donc ternaire. Donc trois verbes ternaires qui se nouent entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se nouer deux à deux, mais qui se nouent à trois. Donc il y a une façon de façon là, ce qu'il nous propose, c'est une façon borroméenne finalement de parler, c'est-à-dire de nouer des phrases entre elles, des propositions entre elles, ces propositions étant donc ce qui va désigner cette place de l'objet A, c'est-à-dire de l'objet cause de désir. Alors, je me suis posé une question qui est peut-être saugrenue, mais après tout, il faut, comme on le verra tout à l'heure, il faut, quand on manie les nœuds, il faut être bête, hein. C'est par rapport à la question des tiraillements, on peut se demander pourquoi c'est pas ça, pourquoi il dit que c'est pas ça, puisque ça tient finalement. Les trois nœuds, ça tient ensemble justement. Ça tiraille, tiraillement. Et il dit c'est pas ça. Alors pourquoi c'est pas ça? Pourquoi dire que c'est pas ça puisque ça tient? Voilà, je me suis posé cette question. Alors je ne sais pas si c'est les bonnes réponses, mais disons ce que je propose donc comme réponse à cette question, c'est que plusieurs réponses finalement. D'une part que ce que ça tient, si vous voulez, ça tient dans le tiraillement. Hein? Et donc, qui dit tiraillement, dit quand même quelque chose d'instable, dit quelque chose de relativement précaire. Ça ne tiraille pas en permanence pour l'éternité, justement. C'est, comme dit, succession d'instants de tiraillement. C'est-à-dire, il y a un moment où ça tiraille, et puis après, ça se détiraille. C'est quoi? Ça se supplie. Donc, le fait que ça tiraille n'est pas l'assurance, enfin, d'une permanence. Et ça tient à trois, et pas à ça tiraille, ça tient à trois, et non pas à deux. Autrement dit, ça tient sur la propriété borroméenne. Et cette propriété borroméenne, c'est celle que si on en ôte un, les deux autres sont libres. Autrement dit, ça tient sur la propriété que ça peut se dénouer. Hein? Dès qu'il le dit quelque part dans les récits, c'est-à-dire que c'est le fait même que ça se dénoue qui fait que ça s'est qualifié de borroméen, que ça peut se dénouer quand on en retire un. Donc c'est quand il dit que c'est pas ça, ben c'est pas ça au sens où c'est ça sur un fond de c'est pas ça en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a les deux, il y a l'instant du c'est ça sur le fondement que ça, la propriété même, le fondement du nœud, c'est que ça ne tient pas à deux. Et qu'on a beaucoup de mal, justement, à se représenter comment, finalement, ça tient à trois. Et donc là, aussi, c'est pas ça, parce que, au fond, il n'y a pas de hiérarchie entre les trois, puisqu'ils sont équivalents. Et ça, c'est évidemment fondamental, puisque, donc, celui, il y en a un qui est au-dessus, par exemple là, l'autre qui est en dessous, et puis le troisième, si on dit que c'est celui-là troisième, mais ça peut être n'importe lequel, le troisième doit passer au-dessus de celui qui est au-dessus, et en dessous de celui qui est en dessous. Je veux dire, c'est pas simple, c'est-à-dire qu'on n'est pas, effectivement, comme on avait vu, dans la cosmologie, avec un macrocosme qui entoure un microcosme, et un emboîtement, comme ça, hiérarchique des circonférences et du monde, de la sphère, de tout ça, quoi. On est dans quelque chose, voilà, le supérieur est dominé et que l'inférieur domine un troisième. Donc il y a et que comme ils sont équivalents, on peut après tout faire tourner ces trois verbes, c'est-à-dire demander, refuser, offrir, c'est demander, refuser ce que je t'offre. Je t'offre de refuser ce que je te demande, je refuse de t'offrir ce...
Ça doit demander.
Voilà, mais non, mais... c'est vrai que c'est pas ça, quoi. On a du mal à dire où c'est ça. Bon. Ça tient, mais on sait pas trop comment. Voilà, bon, donc c'est une... une réponse peut-être à cette question que ne pose pas Lacan là à ce moment-là, puisqu'il découvre le nœud borroméen, il le découvre sur cette propriété qu'il y en a un qui est coupé, les autres se séparent et il ne fait pas état d'autres propriétés. Donc il y a un... disons, on pourrait dire un mode de... Bon, c'est peut-être pas très exact de formuler les choses comme ça, mais on pourrait dire un mode de pensée borroméen. Et c'est-à-dire, et en quoi, effectivement, le borroméen permet peut-être d'éclairer, d'approcher des modes de pensée, justement, qui ne sont pas hiérarchisés de cette façon-là. Il se trouve que, bon, pendant les vacances, là, enfin, les vacances, je suis allé à Bayeux et en Normandie, et sur le mémorial du cimetière des Britanniques, parce qu'il y a le cimetière des Américains, le cimetière des Allemands, le cimetière des Britanniques, donc des soldats britanniques du débarquement, il y a cette phrase. Alors, il ne marche plus ce feutre, hein, je vais le faire avec un stylo, cette phrase. Nos a, donc c'est en latin, hein, sur le mémorial, nos a Guglielmo, Guglielmo, viti, victoris. Patriam, il faudra qu'on traduise. Hein.
Les latinistes sont convoqués à cette question.
Patriam. Patriam. Liberavim. Liberavim. Bon. D'accord. Alors, bon, on va pas faire l'interrogation écrite. Mais. Bon, Guglielmo, c'est Guillaume. Hein, c'est Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, c'est-à-dire le Normand qui a battu les Saxons en Angleterre, Hastings à côté, et qui est devenu roi d'Angleterre. Donc c'est la couronne d'Angleterre, les Anglais, ceux qui sont devenus les Anglais par la suite, donc dont le roi. À partir du XIe siècle, était un Normand. Peut-être encore le royaume français unifié, mais c'était un Normand. Bon. Donc, la traduction, si vous voulez, c'est nous, donc c'est les Anglais qui parlent, hein. Nous, sous-entendu anglais, vaincus, alors par Guillaume vaincu, hein, vaincu par Guillaume vaincu, avons libéré la patrie, victoris, du vainqueur, hein, de notre vainqueur. C'est-à-dire, nous, vaincus, nous avons libéré la patrie de notre vainqueur.
De celui qui nous a vaincus. C'est ça. De Guillaume. C'est là toute l'histoire,
hein. Ben, oui, non, mais c'est ça. Vous voyez, quand on essaye de le reformuler un peu, c'est... Enfin, on a besoin quand même de quelque chose d'écrit pour s'y retrouver. Enfin, on pourrait dire que c'est l'humour anglais. C'est-à-dire, bon, on peut dire, voilà. Mais en même temps, c'est assez intéressant, parce que sur l'idée du débarquement des alliés, enfin, il y a le retour, il y a un retour du débarquement fait de France en Angleterre. C'est un retour. C'est ça quand même qu'ils disent. C'est ça qu'il dit, c'est-à-dire, moi j'avais jamais pensé qu'il y avait cette connexion entre les deux, de cet aller-retour. Donc déjà, ça c'est intéressant, mais ce qui est plus intéressant encore, c'est la tournure de cette phrase très particulière, avec la position comme ça de victorif, deux termes contradictoires en quelque sorte, et que, donc, faites la traduction, nous, vaincus par Guillaume, avons libéré la patrie du vainqueur. Et nous, anglais, qui avons été vaincus par Guillaume le Normand, nous avons libéré la patrie du vainqueur, de notre vainqueur, hein, de notre vainqueur Guillaume. Et nous avons libéré la patrie, c'est-à-dire la France, là. Voilà. Donc nous avons libéré la patrie de notre vainqueur. Guillaume.
Oui.
D'accord.
Oui.
Mais non, mais vous voyez que c'est quelque chose qui qui nécessite un recours à l'écrit, hein, un recours à l'écriture, pour bien suivre, parce que il y a, donc là je trouve qu'il y a une sorte de pensée, enfin bon, enfin en tout cas que le néo-roméen, comme ça, que le néo-roméen nous aide à mieux le voir, c'est-à-dire, si on met là par exemple les Allemands, parce que, bon, c'est des Anglais, et vaincre, ça se dit en anglais, overcome, enfin c'est un des termes pour traduire vaincre, overcome. Donc littéralement, c'est bien venir au-dessus, overcome. Bon, si on déclare par exemple, c'est les Allemands, hein, donc les Allemands, overcome, overcome, les Français, là, les Français, les Normands, Guillaume, la France, et puis là, les Anglais, par exemple. Donc, les Anglais ont overcome les Allemands, hein, donc ils ont libéré la patrie de ceux qui les avaient vaincus, c'est-à-dire les Normands. Sont là, c'est-à-dire les Normands
qui avaient overcommé
les Anglais et qui ont été battus par les Allemands, c'est pour ça qu'il fallut libérer la patrie, quoi. Vous voyez ? Donc il y a quelque chose comme ça que non seulement l'écriture en lettres alphabétiques est un peu nécessaire pour comprendre, mais en plus on trouve que l'écriture roméenne, puisque c'est peut être considéré comme écriture, facilite d'une certaine façon la compréhension de cette phrase, il me semble. Alors, cette. Oui, donc à propos de cette question de l'espace et du temps, là que Lacan traite avec le nœud broméen, enfin avec la topologie, d'une façon générale avec la topologie, mais puisque maintenant on est dans le nœud broméen, avec le nœud broméen, est une question qui n'est pas spéciale à Lacan, bien entendu, vous savez. Et là, je viens de voir un livre qui est paru, qui s'appelle Esthétique de la ponctuation. Je l'ai acheté parce que c'est par Isabelle Cersa, qui est, vit et travaille à Toulouse, où elle enseigne la stylistique à l'Université du Mirail. Et je l'ai acheté parce que je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'a paru, enfin, en tout cas moi ça m'a intéressé d'avoir envie de le lire. Et juste pour un exemple, par exemple, bon, la ponctuation écrit le temps. C'est un peu une de ses thèses, comme ça, que la ponctuation écrit le temps. Elle cite cette phrase de Proust, « Le temps a pris la forme de l'espace ». Et donc elle termine son livre, « La ponctuation et le stylet, le style dont use l'auteur pour façonner la phrase à son usage, pour mesurer son allure, elle est le biais par lequel il peut écrire le temps ». Elle bat le rythme, elle jalonne la marche du lecteur qui s'avance dans le roman. Elle est le biais par lequel il peut saisir le temps. Dessinant à nos yeux les formes que notre lecture déplie, la ponctuation délimite l'espace temporel que crée l'œuvre d'art et en est ainsi un des critères nécessaires. Et elle rappelle que le terme « espace » au début voulait aussi dire le temps. Donc spatium à l'origine, le champ de course désigne en latin classique une étendue mais aussi une durée jusqu'au dernier moment de la vie, ad extremum spatium. De nos jours, espace dans cette acception de laps de temps n'est plus employé absolument. Il lui faut un complément, l'espace d'un siècle ou l'espace d'un matin, ce que vivent les roses, etc. voilà, donc je peux pas vous... Pardon, ça vient de sortir, je l'ai acheté hier chez Chan, j'ai trouvé ça. Hein, ça veut... Ah bah vous,
dans les
seins. Dans les seins, puis vous qui êtes intéressé à la ponctuation. Voilà, donc ça vient montrer comment, en effet, cette question du temps et de l'espace est une question qui peut se retrouver dans différents domaines. Pas seulement la physique, mais aussi dans l'écriture, dans la langue, dans la grammaire, etc.
Dans la musique.
Et donc dans la musique et dans le... donc dans la ponctuation, là vient... est privilégié à cet égard. alors, le... Donc, de cette question de l'espace et du temps, eh bien, et donc avec ce que ça implique, vous avez vu, de tiraillement dans l'espace, et le temps comme aussi instant de tiraillement, puisque donc les deux vont ensemble, eh bien, voilà, on arrive à ce mot R, l'air, E2RE. Donc, ce mot de R que Lacan a introduit essentiellement à une petite remarque près, essentiellement donc dans le séminaire les noms du R, hein, de 73 au 74. Les noms dup, R. Voilà. Et donc ce terme de R vient reprendre, au fond, cette problématique. Dans l'air, il y a la question convoquée, les questions de l'espace et du temps. Donc c'est à partir de là donc continue cette progression sur le sujet qui n'est pas simplement entre deux signifiants mais qui serait entre deux airs. Entre deux airs où aussi ce serait à voir, à discuter entre l'air, il serait dans l'air de l'entre-deux. Hein. Comme par exemple, je pensais à Luna Nietzsche qu'on avait vu. Bon, est-ce que c'est absolument équivalent de dire l'air de l'entre-deux ou de dire entre deux airs? Sans doute pas tout à fait. Bon, maintenant le stylo il marche plus du tout, comme ça c'est réglé. Voilà. Et donc dans ce séminaire il introduit ce terme et non seulement il introduit ce terme, mais il l'associe au terme dup. Donc il va y avoir cette mise en dialectique d'une certaine façon. Ah merci. De ces deux termes, la question de l'air et la question du prix, être dupe, ne pas être dupe. Alors sur la question de... Donc c'est ce qu'on va voir. Sur la question de l'air, je disais, donc c'est introduit en 1674, à ceci près que ce terme avait déjà été utilisé par Lacan dans les formations de l'inconscient, donc en 57, et où il parlait de l'air du désir pour désigner son excentricité par rapport à la satisfaction. Donc déjà c'est intéressant, l'air du désir. Donc c'est vous voyez que donc ça fait partie de ce premier petit que je vais développer, c'est-à-dire que là l'air du désir c'est pas négatif. C'est pas négatif de dire l'air du désir pour désigner justement ça. Donc les noms du père. Non, parce que derrière tout ça aussi, bon, je pense qu'il faut se défaire de jugements moraux sur la question d'être dupe ou pas être dupe, erré ou pas erré. J'ai lu, je ne citerai pas les noms, mais j'ai lu des articles où effectivement, ça devient des catégories morales, quoi. C'est-à-dire, bon, parce que ça peut être par ailleurs dans la philosophie, hein, mais c'est-à-dire, alors voilà, faut pas être dupe. Alors on précise pas trop de quoi faut pas être dupe, mais enfin, faut être dupe et sinon,
on va chercher.
Donc on va chercher de quoi on est dupe. Donc pour chercher absolument de quoi on est dupe, alors on trouve quelque chose de quoi on est dupe, alors très bien, on n'erre pas. Bon, moi je trouve ridicule à double point de vue, parce que d'une part, c'est pas parce qu'on va dire qu'on est dupe de quelque chose que, qu'on n'est pas dupe, qu'on est, etc. Bon. Et en plus, c'est pas un jugement moral de dire, voilà. Et que, d'où cette idée d'entre-deux-airs que je propose, là, vient précisément contre ça. Hein. Et il me semble que quand, justement, Lacan l'utilise là, dans l'information de la conscience, l'air du désir, eh ben, précisément, n'a pas un sens qui va être négatif. Parce que sinon, ça faudrait dire les non-dupes sont dans l'air du désir, alors. Bon. Mais non, mais si on se tient à ça. C'est pas ce qu'il dit. Ensuite, il va. Dans une certaine mesure, renverser les choses dans les noms du Père, mais. Vous verrez, de façon. Qui est à la fois nuancée et qui s'associe aussi à son contraire. En ce qui concerne le terme dupe. C'est un terme aussi c'est un terme qu'il a utilisé, oui, auparavant, dans le séminaire d'un autre à l'autre, qui est 69, et quand, là, il parle justement de la duperie de la conscience. Hein? La duperie de la conscience. C'est que l'analyste l'analyse n'est pas seulement pour être non dupe de l'inconscient, mais savoir de conscient, pardon, non dupe du conscient, mais savoir en sortir et savoir entrer dans l'éclair du non-rapport sexuel. C'est dans d'un autre à l'autre. Donc là, vous voyez que c'est là aussi c'est le contraire, c'est-à-dire que il faut pas être dupe. Dupe de quoi ? De la conscience. Donc effectivement, l'analyste doit être un non-dupe. Mais un non-dupe de quoi ? Ben, un non-dupe de la conscience, oui. Donc faut voir de quoi on parle quand on dit non-dupe ou dupe, quoi, parce que sinon on peut dire vraiment absolument n'importe quoi. Donc ça, c'était avant qu'il introduisait. Donc c'est intéressant parce que finalement les deux occurrences là de dupe et de R que Lacan utilisait étaient prises au fond dans une acception quasiment contraire. Donc qui va renverser avec la négation et les noms du Père, en introduisant les négations, ça complique les choses. Et alors il les renverse autour donc de ce jeu de mots, les noms du Père, donc puisque c'est ça là, qu'il n'avait jamais dit ça auparavant, de faire. Il dit, c'est entre les noms du Père et les noms du R, il dit c'est le même savoir, mais c'est pas le même sens. Effectivement, c'est pas le même sens. Mais c'est le même savoir. Il dit d'ailleurs que c'est quelque chose qui l'étonne, quelque chose qu'il questionne. Mais c'est pas le même sens, on est d'accord, mais si c'est le même savoir, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la conséquence de dire que les noms du R, c'est le même savoir que les noms du Père ? Est-ce que c'est pas quelque chose là qui participe en tout cas de cette déhierarchisation, de cet abaissement de son piédestal du signifiant les noms du Père, c'est-à-dire comme si ce qui pouvait valoir de nom du Père au fond en être un équivalent, c'était quelque chose qui se situait au niveau du savoir et d'un certain rapport au savoir d'un certain rapport au savoir lié à cette question des rapports entre dupe et erré. Voilà, c'est quand même, enfin, quelque chose d'un peu sacrilège, quoi, de regard de ce qu'on a pu faire du nom du Père, un peu sacrilège de dire les noms du Père, puisque ça ne dissout pas, mais ça diffracte les noms du Père dans la langue, pour le coup. Ça diffracte dans la langue, dans le savoir de la langue. Donc c'est du coup la langue qui devient le lieu de savoir et en place, enfin, dans lequel le nom du Père lui-même, au fond, subit cette diffraction dans la langue et devient un des termes, c'est-à-dire le signifiant nom du Père est un des signifiants du nom du Père, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres. Alors, d'autre part, oui, Lacan va... Donc ça, c'était avant, et après, dans le séminaire RSI, le séminaire qui succède directement les noms du Père, Lacan va reprendre la question des noms dupes, des noms du Père, à partir d'un petit livre que je suppose peu d'entre vous ont lu et qui est un petit passage dans les RSI qui, en général, sur lequel on passe très vite, un petit livre de Maupertuis qui s'appelle La Vénus physique. Donc je ne sais pas si quelqu'un connaît ou a lu ce livre.
Non.
Non. Non, mais c'est parce que si c'est bon. Donc,
physique
ou physique? Non, physique, ça c'est... ça c'est la Traviata, ça. Là, vous êtes dans... Vous avez... Non. Non, physique, la Vénus physique. Et donc, bon, je vous dis deux mots, enfin, je vais vous dire deux mots quand même de ce livre. C'est un livre qu'il a obtenu par sa fille, il le précise, qui travaillait sur Buffon, et il prend en quelque sorte prétexte de ce livre pour dire, eh ben voilà, quelqu'un de très intelligent qui est passé à côté d'une découverte qu'il aurait pu faire s'il avait été plus bête. C'est-à-dire s'il s'était comporté de façon plus bête. Maupertuis, de n'être pas dupe, de ne pas s'en tenir à ce fait massif et pour tout dire de ne pas être assez bête, ne sent pas le point de découverte, etc. Et donc c'est un non-dupe. Et donc il a erré, parce que du coup il a proposé des explications qui ce n'étaient pas fausses, alors qu'il avait sous les yeux de quoi faire la découverte. Mais il n'a pas été dupe, il n'a pas été assez bête. Et donc évidemment, il a voulu faire des hypothèses. Donc évidemment, tout ça aussi, c'est les conseils aux psychanalystes. Ne faites pas trop les malins, quoi. Mais, bon. Alors, de quoi s'agit-il? Évidemment, dans ce livre, il s'agit de quelque chose qui intéresse au plus haut point Lacan, puisqu'il s'agit de la question de la fécondation, de la découverte de la fécondation. En quelques mots, Maupertuis, donc, c'est un petit livre que j'ai réussi à me procurer, non pas... en demandant à la fille de Lacan, parce que c'est... qu'on trouve encore, enfin, en librairie, livre ancien. C'est une édition donc de 77, mais le livre est paru en 1745. Et donc ici, à cette époque-là, on n'avait pas encore découvert véritablement le principe de la fécondation et de la reproduction, donc. Et Maupertuis fait un assez rapide descriptif, justement, de ce qu'il y a. Mais les choses ont commencé à changer à partir du XVIe et XVIIe siècle, et donc XVIIIe. Ça a commencé, là, certain nombre de découvertes qui donc ont approché la solution. La solution, mais parce qu'auparavant, donc, au Moyen-Âge et avant, depuis Aristote, il y avait, donc c'était l'enfance était créée par le mélange des deux liqueurs séminales, de l'homme et de la femme. Voilà, un mélange dont on ne savait pas trop comment il se faisait, et puis c'était, voilà, il y avait un mélange. Et dans ce mélange, eh bien, il y avait, enfin, au début, il y avait le principe mâle, c'est-à-dire le principe de... Puisque, bon, on savait qu'il y avait un père et une mère quand même pour faire des enfants, mais bon, donc il y avait un principe vital mâle, et la mère fournissait le terreau sur lequel allait se développer donc l'enfant à partir du principe mâle. Donc l'opposition, la forme et la matière. Hein. Donc ça, c'était voilà la première grande théorie qui a duré très longtemps, jusqu'au temps où, notamment avec les travaux de ce physicien, enfin Fallope, qui était un Italien de Ferrare, je crois, on a commencé à voir qu'il y avait des ovaires et qu'il y avait des choses qui se passaient là sur les ovaires et les fameuses trompes de Fallope, hein, qui relient les ovaires à l'utérus et que donc voilà. Donc à ce moment-là, une autre conception a vu le jour, celle de ce qu'on a appelé l'ovisme, c'est-à-dire que l'enfant n'était pas programmé en quelque sorte dans la liqueur mâle, mais il était programmé dans l'œuf maternel. Que c'était là-dedans que se trouvait l'enfant, et que dans l'œuf maternel, et alors là, selon que dans l'œuf maternel, non, je ne veux pas rentrer dans toutes les explications qu'il donnait pour distinguer pourquoi ensuite ça donnait un homme ou une femme, mais voilà, l'enfant était programmé dans l'œuf. Et puis ensuite, il y a eu la découverte des spermatozoïdes, ces vers spermatiques, ces vers du animalcule spermatique dans le sperme, quoi. Et donc là, de nouveau, il y a eu l'opposition de ceux qui ont dit, finalement, l'enfant, il est déjà tout programmé dans le spermatozoïde. Enfin, il l'appelait pas spermatozoïde, dans le vers spermatique. Et on faisait des petits croquis où on voyait le dessin d'un petit enfant déjà dans le schéma du spermatozoïde. Alors il y avait ceux qui étaient pour le petit enfant dans l'œuf maternel, ceux qui... Et puis alors là, il y avait opposition, il y avait dispute entre les deux. Et donc il y a eu... Tout ça, ça... Vous voyez, les découvertes comme ça, ça allait de plus en plus vite. Et puis... c'était quand même l'idée, c'était déjà préféré. Et puis il y a eu ces expériences dont parle justement Maupertuis. Donc Maupertuis, oui, deux mots, c'est un grand savant donc du 18e qui français et qui s'intéressait à beaucoup de choses. Il était très il adhérait aux théories de Newton, il habitait en Angleterre. Et il est allé aussi au pôle de la Terre, parce qu'il y avait une discussion pour savoir si les pôles étaient aplatis ou au contraire étaient coniques. Et donc il est allé au pôle pour voir que c'était pas conique, que c'était plutôt aplati. Bon, donc vous voyez, c'était un savant, enfin il a une vie mouvementée comme beaucoup de savants de l'époque. Et il fait donc référence à des expériences du grand Harvey, anglais, à qui donc le roi Charles Ier avait mis à sa disposition sa chasse, et qui faisait une chose qui ne se ferait plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il sacrifiait les biches couvertes par des cerfs toutes les... Non, mais je m'excuse. Il les sacrifie. Il prenait un certain nombre de biches comme ça pour examiner l'état de leur utérus à chaque... pas tous les jours peut-être, mais donc c'était une biche par jour quasiment qui sacrifiait pour voir l'état de l'utérus et son développement après fécondation, quoi. Et il a, et donc là il a fait une constatation. Enfin, bon, alors il y avait aussi toute une histoire de savoir si le sperme allait jusque dans l'utérus ou pas. Bon. Mais il a découvert l'embryologie, quoi. C'est-à-dire qu'il a découvert que bon, le fœtus n'était pas tout fait soit dans l'œuf, soit dans le spermatozoïde, mais que c'est à partir de ce qu'il appelait un point, un point blanc dans l'utérus, que se développait, l'embryon, organe après organe, comme on le sait maintenant. C'est-à-dire que c'était, n'était pas préformé, quoi. C'était pas préformé grandissant. C'était que chaque... il se transformait à partir... Et donc là, évidemment, ça s'opposait aux théories, disons, de l'ovisme d'un côté et de l'animalculisme de l'autre, quoi. Mais, bien entendu, tout ça était en discussion, personne n'était d'accord, tout le monde faisait... des remarques et tout, et donc là-dessus, Maupertuis, prend tout ça en compte, et donc c'est l'état en quelque sorte de ce qu'il sait à l'époque, mais donc lui, Maupertuis, il récuse justement les théories qui seraient de l'enfant préformé. Hein. Donc ça, le truc de Harvey, notamment, est décisif. Donc il n'y a pas à se prononcer pour l'un ou contre l'autre, ou inversement. Mais, donc, la fécondation dans l'œuf, enfin l'enfant, l'embryon, est formé à partir, donc, père et de la mère, aussi bien. Bon, à preuve, d'ailleurs, les traits de ressemblance, à preuve, les métissages, dans les mariages, etc. Bon. Mais, ensuite, comment expliquer que... c'est-à-dire, les choses restent vagues pour expliquer comment, à partir des deux liqueurs, donc on affirme que chacune collabore à faire l'enfant, comment font-elles pour réellement faire l'enfant, quoi. Il ne suffit pas de dire qu'il y a deux liqueurs qui s'assemblent, ce que disaient finalement déjà les anciens, donc c'est un certain progrès par rapport aux anciens, mais au fond, ça ne dit pas réellement comment, en s'assemblant, ça produit l'enfant. Et c'est là, donc, Lacan dit qu'il avait en fait la solution et qu'il ne l'a pas trouvée. C'est que, Maupertuis, il dit, il fait une hypothèse, il le dit, et donc là, on voit que justement, ça a été un partisan de Newton, puisqu'il y avait aussi toute une bagarre à l'époque entre Newton et Descartes, et Descartes avait une autre conception aussi de la fécondation. Et donc, en tant que partisan de Newton, en tant que partisan, donc, de la loi de la gravitation, eh bien, il dit c'est des forces attractives identiques aux lois de la gravitation, c'est-à-dire les lois de la gravitation dans l'univers physique sont les mêmes, enfin se retrouvent au niveau du corps. Il y a attirance, il y a attraction d'éléments. Alors donc il y aura un petit bout de qui va représenter un petit bout de la main de la mère avec un petit bout de la main du père qui vont s'attirer. Et puis si il y en a un troisième qui n'est pas vraiment là puis qui est attiré, ça va faire une malformation. Vous voyez, ça va faire une main avec des doigts supplémentaires parce que il y en a, si l'oreille de l'un est attirée par la main de l'autre, ça va faire une main à la place de l'oreille. Enfin bon, ça peut faire toutes les malformations qu'on veut. Mais c'est ça, le principe, c'est l'attraction de deux parties. Et que voilà, ce qui, là, y a des choses qui sont pas bien, mais enfin, puis finalement, la somme de toutes ces attractions, ça va donner le corps qu'on a, quoi. Bon, à partir comme ça dans ce liqueur de molécules, et donc du coup, finalement, il évacue, enfin, il n'a plus besoin de la découverte des spermatozoïdes, qui a pourtant été essentielle. C'est-à-dire qu'il dit, les spermatozoïdes, bon, je ne suis pas de ceux qui vont nier l'existence des spermatozoïdes, mais à quoi ils servent, je ne sais pas. Peut-être qu'ils servent à agiter, quoi, faire la mayonnaise, quoi. À faire, comme pour faire une mayonnaise, à faire un peu tourner les choses pour que ça s'assemble. C'est sans doute ça, quoi. Mais bon. Mais du coup, finalement, c'est... Et donc, c'est là où Lacan dit que Maupertuis, donc de pas être simplement dupe, de pas s'en tenir à ce que son temps lui fournit comme matériel, c'est-à-dire notamment justement la découverte des spermatozoïdes, eh bien ne pas s'en tenir à ce fait massif et pour tout dire ne pas être assez bête, ne sent pas le point à proprement parler de découverte que constitue, pour ce qu'il en est d'une appréhension réelle de la distinction des sexes, ne s'en tient pas à ce qui lui est apporté. S'il était plus dupe, il errerait moins. Non pas certes que son erre soit sotte. Donc déjà, nuance, quoi. Non pas que son erre soit sotte. Car il arrive à quelque chose qui est en quelque sorte la préfiguration de ce qui s'est un examen ultérieur à des plus puissants microscopes révélés comme constituant l'existence des gènes. Et effectivement, dans cet article sur Maupertuis, on peut dire qu'il a été précurseur de la découverte des gènes, quoi. Voilà. Mais il est passé à côté de ce rapport entre l'œuf et le spermatozoïde. Et donc, il fait ce que Lacan appelle ça, ce que fait Maupertuis, il appelle ça une bigarrure, qui s'aveugle, en quelque sorte, avec cette puzzle, une sorte de puzzle de substance de l'embryon, de bigarrure. Et donc, c'est, si je puis dire, d'être... Donc, encore une fois, d'être non dupe qu'il imagine fort mal. Il n'est pas dupe dans la mesure où il s'en tient pas strictement à ce qui lui est fourni, qu'il fait en somme des hypothèses. Voilà. Alors, ça semble très bien, comme ça, de dire ça. Mais, en même temps, je veux dire, on peut dire ça de tout. Je veux dire, de n'importe quelle découverte, on peut dire, ils n'ont pas fait la découverte suivante. D'accord. On peut toujours le dire après coup, il avait tout sous les yeux, il ne l'a pas vu. Oui. Donc, vous verrez donc que pour la question se pose exactement pareil pour Freud, puisque Lacan dit qu'il erre, et pourtant, s'il y a quelqu'un qui. A été dupe de l'inconscient aussi, c'est bien lui. Et puis, la question se retourne évidemment sur Lacan, dans un certain nombre de passages où, effectivement, Lacan avance des choses sur lesquelles il recule par la suite. Et puis d'autres, où il ne le dit pas, mais où, de fait, ça ne tient pas forcément. Donc, ça... C'est-à-dire, bon... Je crois que ça souligne bien qu'il ne faut pas avoir un point de vue moral là-dessus. Hein? Parce que c'est toujours facile de dire que les noms du père et de dire que les dupes errent, que c'est les autres qui sont dupes et qui errent. Et après coup, évidemment, on peut toujours le dire. On peut toujours le dire. Mais ça n'invalide pas, à mon avis, quand même la justesse de la remarque de Lacan. Parce que, en effet, c'est vrai que si on s'en tient à des éléments de façon plus littérale, je dirais, non pas des questions d'être assez bête, mais d'être littéral, si on est plus, si on fait moins d'hypothèses et on cerne mieux les éléments littéraux, alors on peut aller plus loin que faut qu'on va, bon, ça ne veut pas dire qu'on puisse aller à l'infini. Mais, en effet, la remarque est juste parce que il y a toujours une tendance à un certain moment donné à vouloir faire des hypothèses, imaginer des choses et du coup méconnaître des éléments littéraux qui en fait méritent d'être pris pour eux-mêmes et d'être repris, quoi. Alors, donc ça c'était une première petite chose, mais alors, et donc c'est donc dans ce sens que je vais essayer de présenter cette question de l'entre-deux-airs. Enfin, c'est, donc ils ne sont pas à concevoir comme deux airs, à la limite, deux airs A-I-R-E-S, deux domaines séparés par une frontière. C'est un entre-deux, c'est-à-dire, et donc c'est... il y a passage, enfin c'est l'entre-deux de ces deux. Alors, donc, je reviens au séminaire Les Noms du Père, au début du séminaire, puisque c'est là que Lacan va opposer, va introduire cette question de l'air. Il le fait en commençant par rappeler en physique le sens du mot « air », c'est-à-dire la lancée, hein, la lancée de quelque chose quand s'arrête ce qu'il propulse. C'est ça, l'air, c'est la lancée de quelque chose, hein, quand s'arrête ce qu'il propulse. Donc ça, c'est en physique. Du point de vue, et donc il parle aussi ensuite de l'étymologie là, du mot « air » qui prête à de nombreux équivoques. Et c'est à partir de ces équivoques que, justement, on peut arriver à discerner un entre-deux-airs, dans précisément l'équivoque. Dans le mot « air » en français, hein, c'est pas la même chose en anglais, notamment, c'est un mot qui est pas traduisible, en tout cas justement pas traduisible avec toutes ces équivoques, donc toute sa richesse. Dans le mot en français, il y a une convergence de error, donc dans l'air, error qui donne l'erreur, hein, et de iterare, répéter. Itérare, répété, hein, itération, une itération. Et ce dernier terme, itérare, hein, est apparenté à un autre terme qui est itinérare, voyager. Et c'est ce qui engendre donc le sens de itinérant, voilà, pour errant. Donc vous voyez, dans ce mot errer, il y a trois termes. Il y a l'erreur, le répéter et il y a le voyager. Et à laquelle donc s'ajoute la notion de la lancée. Et à laquelle donc s'ajoute aussi en français, dans la langue française, toutes les équivoques. Alors là, pour donc, pas simplement avec l'air E2RE, mais l'air AIRE, l'air AIR, l'air, la lettre de R, la lettre R du réel.
L'air ERE.
L'air ERE, hein, l'air HERE, HE accent grave RE, etc. Bon. Alors, selon la prédominance d'un terme sur les autres, le sens même de l'air, donc du coup, va changer. Si on l'entend d'une façon ou d'une autre, ça va changer. Et donc, ça va changer le rapport avec le dupe, le non-dupe, selon que on va prendre un sens ou un autre de l'air. Et à cela s'ajoute que, en trouvant le support du Noboroméen, la lancée de l'air permet un jeu entre les variétés d'air, un jeu qui précisément est celui du sujet entre deux airs, c'est-à-dire tout ce jeu qu'on a un petit peu vu, mais enfin qu'on pourra peut-être voir, du tiraillement, des modifications du nœud en fonction du fait qu'on le tire, ces transformations quand on le tire, et ce que le réordonnancement que ça donne entre les ronds quand on se met à en tirer un, pas simplement dans celui-là qui est le plus simple, mais dans des nœuds boroméens plus compliqués. Et donc qui ont à voir avec une physique de l'air, de savoir jusqu'où on peut distendre et que ça reste pareil, par exemple. Alors, ces équivoques du mot « air » se regroupent selon deux orientations. Je dirais l'air du voyage, qui est ce que Lacan, sur quoi Lacan insiste, et l'air de la structure, qui est ce dont Lacan parlera dans le séminaire suivant, RSI, avec cette phrase qui débute, que j'ai donc commentée par ailleurs, c'est « Quelle est l'ère de la métaphore ?» Ou l'ère du désir, si on veut reprendre l'information. Alors, au début donc du séminaire des noms du Père, nom du Père, Lacan n'oppose pas deux airs, comme je le fais là, mais il oppose les non-dus et les dupes. Donc le mot air il oppose, donc l'opposition qui se fait, c'est entre les dupes et les non-dupes. Les premiers donc qui errent, les non-dupes errent, et pas les seconds, les dupes errent. Donc, il oppose un erré à un non-erré en fonction du fait d'être dupe ou non-dupe. Selon qu'on est dupe ou non-dupe, on va errer ou on ne va pas errer. Mais dupe ou non-dupe de quoi? Alors, pas du conscient, comme il le disait dans D'un autre à l'autre, mais disons, pour aller vite, de l'inconscient, de la structure du désir inconscient. Il s'agit d'être dupe du désir inconscient, plus exactement de la structure du désir, d'un désir qui toute la vie reste le même, en tout cas sur lequel ne porte pas la distinction passé, présent et avenir. Donc, là, les non-dupes, c'est des non-dupes du désir inconscient, R. Les non-dupes du désir inconscient, R, et le désir inconscient est un désir dont la... C'est la structure du désir, et la structure du désir, elle, est permanente. C'est-à-dire, elle est la même toute la vie. C'est-à-dire, Lacan, là, se réfère à la dernière phrase de la 32 tours, qu'il va retraduire à sa façon. Dernière phrase qui, maintenant qu'on a cette chance immense et merveilleuse d'avoir plusieurs traductions de Freud, toutes plus commerciales les unes que les autres, eh bien, selon, donc, une petite comparaison des traductions, dans les œuvres complètes, là, de de la planche, qui était la planche, eh bien, c'est la traduction de cette dernière phrase, c'est la suivante. En nous représentant un souhait comme accompli, le rêve nous mène, il est vrai, vers l'avenir, mais cet avenir, considéré par le rêveur comme présent, se trouve modelé par l'indestructible souhait, modelé en l'image même de ce passé. Lefèvre, le philosophe, au seuil, traduit, lui, de cette façon, « Dans la mesure où le rêve nous représente un désir comme satisfait, il nous mène certes dans l'avenir, mais à cet avenir que le rêveur prend pour le présent, l'indestructible désir donnera un visage à l'image exacte de ce passé. » Vous voyez déjà comment une même phrase peut être transformée. Et Lacan avait déjà, dans Séminaire sur le désir et son interprétation, en 58, il avait déjà fait une petite traduction partielle de cette phrase, de la façon suivante, le désir indestructible modèle le présent à l'image du passé. Bon. Il revient donc dans Les Noms du Père, au début, la première leçon, il revient sur la traduction de cette phrase qui, pour lui, donc, est un appui important. Donc je cite Lacan, cet avenir tenu par le rêveur pour présent est structuré, donc gestaltet, hein, de Freud, gestaltet, est structuré par l'indestructible demande, c'est le mot Wunsch, hein, qui a été traduit par souhait, et Lacan dans un autre texte dit que justement le terme Wunsch n'a pas d'équivalent en français, le terme Wunsch donc qui est le terme employé par Freud quand il dit le rêve est l'accomplissement de désir, c'est le mot Wunsch, accomplissement de Wunsch, bon, Wunsch Erfüllung. Donc, mais ce terme, dit Lacan, n'a pas de traduction, n'a pas d'équivalent français, c'est quelque chose, le Wunsch, le souhait, le vœu, c'est intermédiaire entre la demande et le désir, justement. Donc là, il traduit l'indestructible demande en tant qu'elle est toujours la même. En tant qu'elle est toujours la même, c'est-à-dire, traduit, Zum, c'est là où il est, comme ça qu'il traduit le Zum Eben Bild. Donc c'est pas, vous voyez, c'est pas l'avenir qui est modelé par l'indestructible souhait en l'image même de ce passé, c'est l'indestructible, le présent est formé par l'indestructible demande en tant qu'elle est toujours la même, en tant qu'elle est toujours la même. Donc non pas en l'image même de ce passé, mais en tant qu'elle est toujours la même. Zum Eben Bild. Alors sûrement, il y a des germanistes ici qui vont contester cette traduction, qui vont dire ben non, c'est pas comme ça qu'il faut traduire. Bon. En tout cas, c'est comme ça qu'il a traduit, et c'est, je crois, quand même acceptable. Hein. Et elle est fidèle à ce que dit Freud, et d'une certaine façon, je trouve, elle est plus claire. Hein. Car si l'avenir pris pour présent est à l'image même du passé, c'est bien que le Wunsch est toujours le même. Toujours le même. Donc, c'est la structure du désir est donc définie comme, voilà, par rapport à cet indestructible, toujours le même. Et puisque là on est dans les noms du Père avec le nouveau roméen, eh bien la structure du désir, justement, notamment par rapport à cette phrase, mais pas seulement, car en tant que le nouveau roméen vient serrer hein, l'objet A, c'est celle définie par les trois dimensions RSI, les dimensions habitées par le par-l'être, qui ne sont pas les trois dimensions de l'espace, et qui sont supportées par les ficelles du nœud borroméen. Être dupe donc de la structure, pour Lacan à ce moment-là, signifie donc être dupe d'imaginer le réel de la structure de langage qui détermine le par-l'être. Parce que c'est structure de RSI, donc. Ça inclut l'imaginaire, le réel, le symbolique. C'est être dupe, donc, de l'espace que constitue le nœud borroméen, qui est l'espace de l'autre scène, pour reprendre l'expression freudienne. Un espace où l'enveloppant est enveloppé par ce qui l'enveloppe. Qu'on a vu. Victi victoris. Si l'on refuse d'être dupe de la structure, en ce sens, il y a R au sens d'erreur. Les non-dupes, R, c'est-à-dire les non-dupes, sont dans l'erreur. Erreur qui consiste à errer, alors, c'est là où Lacan va jouer dans l'unité, en quoi consiste l'erreur ? L'erreur consiste à errer au sens d'itinérari, c'est-à-dire au sens du voyage, et non pas au sens de itinérari répété. Donc l'erreur est celle de considérer. Donc c'est, vous voyez la progression de l'erreur, l'erreur, et l'erreur de quoi ? L'erreur, c'est d'errer au sens du voyage, mais pas au sens de la répétition. Donc l'erreur, c'est de considérer la vie comme un voyage. La vie comme un voyage qui va d'un passé vers le futur, puisque le désir est indescriptible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas passé, présent, futur du désir. Le désir est un point, on peut dire, de tiraillement sur la ligne, comme ça, temporelle, du passé au futur. De la naissance vers la mort, hein, puisque le passé c'est ça, le futur c'est ça. Et méconnaissant quoi ? Méconnaissant donc la structure de quoi ? La répétition, celle de la répétition. Méconnaissant donc l'itinérari. Donc c'est l'itinérari qui fait l'errance de l'itinérari qui fait méconnaître l'itinérari de la structure qui se répète, toujours la même. Structure du désir inconscient qui interrompt la ligne continue du temps passé, présent, avenir. Donc il interrompt dans ces, comme je l'ai cité tout à l'heure, dans ces instants de tiraillement, hein, le temps comme instant de tiraillement. Donc c'est pas un temps, c'est un passé, présent, c'est un temps structural de tiraillement façon borroméenne. Et dans ce temps, donc, c'est pas présent, passé, avenir, parce que, de fait, dans ce temps, ces termes passé, présent, avenir, l'ordre de ces termes, l'ordre diachronique, l'ordre de la continuité de ces termes, est bouleversé. Et il est bouleversé concrètement, pas simplement abstraitement dans des figures. Mathématiques, c'est concrètement dans le langage, c'est en ce sens aussi que c'est adéquat au langage, c'est-à-dire, par exemple, dans le futur antérieur. Il aura été. Il aura été. C'est-à-dire, c'est du point de vue du... C'est un moment, alors là aussi, dans le futur antérieur, selon le moment, le sujet qui parle peut se placer très bien au passé, il peut se placer au présent, il peut se placer au futur. Mais quand il dit il aura été, dans son énonciation, c'est du point de vue du futur qui va désigner un point du passé de ce futur, mais qui peut être son présent, qui peut être son futur, qui peut être son passé. Et voilà, on n'est pas dans cette diachronie. Et donc, vous savez, dans le désignation d'interprétation, Lacan dit que la formule du futur antérieur, c'est la formule du fantasme. Il l'aura voulu. Il l'aura voulu. Hein. Bon. Mais c'est pour autant que le sujet peut le dire lui-même. Hein. Ce n'est pas une formule qu'on va acheter à la figure de l'autre. Il l'aura voulu, il l'a bien, je te l'avais bien dit, etc. Hein. Alors, l'erreur du non-dupe, donc on a défini, que je viens de définir, eh bien, on entraîne d'autres. Une erreur, on peut toujours en cacher une autre. Hein. Quoi hein? Plusieurs. Oui. Il faut être optimiste. Ouais. Alors, d'autres, par exemple, l'idée de développement, l'imaginarisation de la vie et de la mort, et donc les notions de pulsion de vie et pulsion de mort. Et c'est là où, justement, je ne sais pas si je vais y revenir ou pas, enfin, c'est là où Lacan dit que, eh bien, Freud a erré hein, avec ses histoires de pulsion de vie, de pulsion de mort, quoi. Parce que, en faisant ça, il se place dans la perspective du viator. Hein. Le viator, le voyageur, c'est celui qui vit sa vie comme un voyage. Et qui sont sur Terre comme à l'étranger. Et il dit, par exemple, la seule chose, donc c'est ces viators, qui sont dans ce bas monde comme à l'étranger, la seule chose dont ils ne s'aperçoivent pas, c'est que rien qu'à faire ressurgir cette fonction de l'étranger, ils font surgir du même coup le tiers terme, la troisième dimension, celle grâce à quoi des rapports de cette vie, ils ne sortiront jamais, si ce n'est d'être alors plus dupes encore que les autres, de ce lieu de l'autre, du grand autre, pourtant qu'avec leur imaginaire, ils constituent comme tels. Autrement dit, vous voyez que là, les choses peuvent commencer à s'inverser, c'est-à-dire que, bon, ils sont dupes, ils errent, mais ils méconnaissent une structure, donc, mais ils ne la constituent pas moins, quoi. Ils ne la constituent pas moins. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas... je veux dire, ce n'est pas une séparation étanche. C'est-à-dire, plus ils errent, au sens de voyager, et plus aussi, ils participent à constituer une sorte d'imaginarisation de l'autre. Donc ce sont les non-dupes sont comme des dupes, mais qui s'ignorent. Et alors, est-ce que, à partir de là, ça peut se retourner? Est-ce que peut-on arriver à ne pas errer? Est-ce qu'un non-dupe peut arriver à ne pas errer? Par exemple, en allant jusqu'au bout de leurs erres, de leurs erreurs de voyage, sur leur lancée, sur la lancée de leur erre. Et là, je vous citerai un petit extrait de Henri Michaud dans ce recueil de courts textes, d'aphorismes, qui s'appelle Poteau d'angle, et où il écrit « Va jusqu'au bout de tes erreurs, au moins de quelques-unes, de façon à en bien pouvoir observer le type. Sinon, t'arrêtant à mi-chemin, tu iras toujours aveuglément reprenant le même genre d'erreur, de bout en bout de ta vie, ce que certains appelleront ta destinée. L'ennemi qui est ta structure, force-le à se découvrir. Si tu n'as pas pu gauchir ta destinée, tu n'auras été qu'un appartement loué. » Poteau d'angle. Poteau, des poteaux d'angle. Donc ça, pose bien la question de, fait, est-ce que d'aller jusqu'au bout, le bit du bout des erreurs, eh bien, il n'y a pas quelque chose qui est rencontré précisément à ce moment-là de la structure, et où donc ça se renverse. Il y a quelque chose où qui est aperçu justement de la structure de ce fait-là. Et bon, d'une part, et d'autre part, et n'y a-t-il pas au départ, sur un autre plan, une ère qui est propre à la structure elle-même? Et c'est bien donc ce qui ressort, comme je disais tout à l'heure, du séminaire RSI, du séminaire suivant, où Lacan commence par poser cette question de l'ère de la métaphore. Hein? Quelle est l'ère de la métaphore? Donc, je continue, parce que là, en fait, on est arrivé à ce que j'avais prévu pour la deuxième séance du séminaire, donc vous voyez à peu près le retard. Alors, si... bon, mais peut-être que je ne vais pas... Je vais m'arrêter d'ici... d'ici quelques minutes, hein, juste pour terminer sur cette ère-là, quoi. Si Lacan parle d'ère de la métaphore, hein, donc c'est vrai que j'ai longtemps, j'ai beaucoup développé ce point-là, là, dans l'être du symptôme, je ne vais pas y revenir ce soir, hein, juste pour rappeler que si il parle d'ère de la métaphore, c'est bien qu'il existe une ère de la structure. Parce que quoi de plus structural que la métaphore qui donne la formule du symptôme, et puisque le symptôme, dit-il, est une métaphore, et qui donne la formule du nom du père. Le nom du père est une métaphore aussi. Ce qui ne veut pas dire que le père soit forcément un symptôme. Mais tous les deux sont supportés par la formule de la métaphore. Donc, si les noms dupes errent, les dupes errent aussi, mais pas de la même façon. En effet, être dupe de la structure, c'est errer, du coup, au sens non pas de itinérare ou du voyage, mais au sens de itérare, c'est-à-dire le répéter, au sens de répéter. Répétition, au sens freudien, la widerholung zwang, la contrainte de répéter, qui est la répétition de la structure du désir, du coinçage de RSI. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a une ère de la répétition, donc une ère de la structure et une ère du voyage. Et cette ère de la structure, cette ère de la répétition, est l'ère donc du coinçage avec le nœud borroméen, et n'est-elle pas exemplifiée par la souplesse des cordes du nœud borroméen et des effets d'entraînement d'un des ronds sur les autres, dont parle Lacan dans son séminaire du 9 janvier 79, qui précisément, curieusement, peut tout à fait être l'objet de la même critique que Lacan apportait à Maupertuis. C'est-à-dire que dans ce séminaire, c'est dans ce séminaire, vous vous souvenez peut-être, que Lacan dit que le nœud borroméen est une erreur, justement, à partir de cet effet d'entraînement d'un des ronds sur un autre. Je n'arrive pas toujours dans la citation du séminaire du 9 janvier 1979, donc dans le séminaire voilà, dans ses nerfs sur le moment de dans la topologie et le temps, hein. Et donc à partir d'une configuration particulière d'un nœud bourméen à 3, hein, mais avec plus que 6 croisements, eh bien, il se livre à des manipulations qu'il appelle d'entraînement en empoignant un des ronds et en tirant dessus et en voyant ce que ça donne pour les deux autres, pour la configuration des deux autres, et en montrant qu'effectivement, ça donne pas les mêmes configurations selon que on tire sur un des ronds ou sur un autre, que ça donne des choses différentes. Et à partir de donc cette simple manipulation, hein, manipulation de tiraillement, d'entraînement et de déformation, eh bien, il aboutit à cette conclusion suivante, qu'il n'y ait pas de rapport sexuel, c'est ce qui est l'essentiel de ce que j'énonce, qu'il n'y ait pas de rapport sexuel parce qu'il y a un « i », il y a un peu imaginaire symbolique et un réel, c'est ce que je n'ai pas osé dire, j'ai quand même dit, il est bien évident que j'ai eu tort, je m'y suis laissé glisser, tout simplement, c'est embêtant, c'est même plus qu'ennuyeux, c'est d'autant plus ennuyeux que c'est injustifié. C'est ce qui m'apparaît aujourd'hui, et c'est du même coup ce que je vous avoue. Et Lacan, donc, n'est pas resté là, il est revenu sur cette affirmation-là, dans son travail avec Souris, mais simplement, c'est, voilà, ça fait état d'un moment où, en quelque sorte, il est pris dans ce mouvement de j'ai fait des hypothèses et j'ai pas été assez bête et voilà je suis bête et maintenant toutes ces hypothèses tombent, etc. C'est-à-dire qu'il est lui-même, il se reconnaît là comme ayant été non dupe en quelque sorte, ayant forgé des hypothèses et ayant été non dupe. Bon, donc ça. Alors. Donc, dupes et non-dupes ne sont pas deux catégories étanches, même s'ils représentent des orientations différentes. Il y a des passages et des réversibilités possibles. Il y a une R, A-I-R-E, commune, une R temporelle et spatiale. Alors, l'R du voyage n'est pas la même que l'R de la structure. Mais, donc c'est, mais c'est, y a, c'est difficile, c'est qu'il y a un entre-deux des deux. Les non-dupes de la structure ont une errance avec erreur. Ils sont sur la lancée de l'ère du voyage. Mais celle-ci implique en creux l'ère de la structure. L'erreur est de le méconnaître, de l'ignorer. Si l'on suit l'erreur jusqu'au bout, il n'est pas impossible qu'un retournement se produise. Les dupes de la structure, en principe, n'errent pas. Ils n'errent pas dans l'erreur, mais ils errent dans la métaphore, dans la répétition. Et cela ne met pas à l'abri de l'erreur. La répétition ne met pas à l'abri de l'erreur, comme Lacan, d'ailleurs, le laisse entendre pour Freud lui-même, qui aurait erré. À ne plus, dit-il, à ne plus se vouloir dupe de la structure, on s'imagine que la vie est tressée de pulsions de vie et de mort. Donc, il critique les pulsions de vie et de mort, au nom de ceci que là, Freud n'aurait pas voulu être dupe de la structure, qu'il avait lui-même découverte. Voilà, mais d'où, effectivement, se place-t-on pour dire ça, quoi. C'est quand même une question, bon. Mais il se place du point de vue de ce que lui aussi veut soutenir de sa propre avancée. Hein, c'est pas dire, c'est pas la même chose que dire, bon ben vous pouvez vous passer de Freud. Voilà. Et la séance suivante, le 20 novembre, Lacan parle carrément d'errance de Freud. Hein. C'est-à-dire son errance à lui, à Freud, c'est-à-dire à la façon dont il essayait de rendre ce discours analytique adéquat au discours scientifique. C'était son erre, c'est ce qu'il a, je ne peux pas dire, empêché, enfin, d'en faire la mathématique. Puisque la mathématique, il la faisait comme ça, fallait un deuxième pas pour ensuite pouvoir l'inscrire. Donc, Lacan s'inscrit dans l'ère de Freud, quoi. Hein, mais en lui donnant un autre sens. Alors, l'équivoque, enfin, l'existence du deux R, qui, induite par l'équivoque du mot R, répond, me semble-t-il, aussi à ce qu'on peut mettre en évidence avec le neuboroméen, c'est-à-dire les deux R au sens réel, les deux réels du neuboroméen. Hein, à savoir, le réel nommé d'une des consistances qu'on va nommer comme telle, qui est un réel de sens, on donne à une des consistances le sens de réel au lieu de celui d'imaginaire, au lieu de symbolique. Bon. Et à partir du moment où on lui donne un sens, on n'est plus dans le réel, puisque le réel se définit par le hors-sens, ou l'ab-sens avec un trait d'union, et de séparation comme tout trait d'union, justement. La ponctuation qui sépare et réunit à la fois. Donc, le réel du nœud est le fait qu'ils tiennent à trois ensemble, qu'il en faut trois pour qu'ils tiennent ensemble. Ça commence à trois, La triplicité, c'est ça le réel, or ça n'a pas de sens. C'est comme ça, c'est 3, c'est le chiffre 3, c'est le nombre. Donc c'est le réel du nombre, proprement dit. C'est ça le... Mais ça désigne le réel, mais le réel d'un des ronds, dire nommer un des ronds réel, c'est lui donner du sens, et donc déjà, c'est imaginariser le réel, donc on n'est plus, ou le symboliser, donc on n'est plus dans le maniement du réel comme tel, qui est celui du 3 premier. Donc il y a deux réels. Il y a deux réels du sens et du nombre et du hors-sens. C'est ce qui a donné donc lieu à ce compromis du neuboroméen 4 chez Lacan à la fin de RSI. Dans la Trome de Thun de Freud, on peut aussi lire une sorte d'anticipation de ces deux réels, toute proportion gardée et avec le vocabulaire de Freud, puisque Freud n'avait pas ce terme de réel à sa disposition, dans le fait que Freud parle de l'existence de deux inconscients, de deux sortes d'inconscients. Il y a l'un qui parvient à la conscience par le préconscient, et l'autre qui reste système inconscient, incapable de conscience. Peut-être c'est bien qu'on s'arrête là. Bon, bah je...
De pousser ses erreurs jusqu'au bout.
Oui.
Ça me fait penser, il me semble que dans le symptôme, il a cette expression de dire qu'il faudrait que le symptôme, s'il emploie pas l'expression, il faudrait le pousser jusqu'à plus soif. Enfin,
oui.
Il y a cette expression-là dans une séance pour qu'il dise ce qu'il a à dire. Quoi.
Et, oui, oui. Oui, oui.
Et en écoutant ça, je pensais à ce qu'il dit justement dans le symptôme, et je pensais à cette difficulté, je trouve, actuelle,
ouais.
Par rapport peut-être à une époque où effectivement des gens venaient en analyse, en étant en tous les cas, en ayant l'impression qu'ils étaient un petit peu avertis de ce que c'est une analyse, dans ces demandes comme ça qui arrivent un peu tout venant, je dirais aujourd'hui, des demandes un peu bizarroïdes, il y a cette demande justement d'empêcher d'aller au bout de ses erreurs. Et je trouve que c'est une des choses, enfin, moi j'aime beaucoup comme telle, une des choses extrêmement difficiles dans la pratique actuellement, de pouvoir laisser ça aller.
Oui. Oui, oui, ben c'est... Ça rejoint la question du sérieux, je dirais. C'est-à-dire du sérieux au sens où Lacan le définissait comme ce qui fait série, et le mot série est en lui-même de la même origine que serré. Donc, prendre au sérieux, c'est... effectivement répéter et serrer quelque chose à sa limite, puisque les séries ont des limites ou non pas. Donc il y a quelque chose de l'ordre du serrage, le sérieux comme serrage, de la limite d'un serrage, quoi. Et effectivement, la prise au sérieux, en ce sens que vous dites, de l'analyse. Et ce qui est aussi... à l'inverse, se prendre soi-même au sérieux, quoi. C'est-à-dire, c'est ça, se prendre au sérieux. Il faut se prendre au sérieux. Mais c'est ça aussi, beaucoup de gens hésitent à se prendre au sérieux, ils ont tort. Parce que la névrose n'est pas un péché. Enfin, c'est toujours cette vieille histoire. C'est la névrose et... est à prendre au sérieux, précisément. La névrose psychose ou perversion. Et c'est comme aussi c'est chose qui se retourne, quoi. Et c'est comme l'histoire de comprendre, quoi. Lacan nous met toujours en garde. Là aussi, il faut pas, quand il dit ne pas être, il faut être resté bête, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, pas dire qu'il faut être bête, qu'il faut être con, mais ça veut dire qu'il... Effectivement, c'est pas pareil, mais ça veut dire aussi qu'il faut pas comprendre trop vite, toujours ce qu'il met en garde contre. Et donc, pourquoi on ne comprend pas? Parce que, en fait, on est compris, donc il faut qu'on... On comprend à la mesure de ce dans quoi on est compris, quoi. On est compris dans quelque chose et... C'est ça qui permet de comprendre, quoi.
C'est pas sans lien, d'ailleurs, cette difficulté avec, effectivement, cette question de la vie pensée comme un voyage, quoi, qui irait d'un début jusqu'à son terme.
Oui.
Je trouve que c'est cette difficulté-là, effectivement,
du
sujet, elle est prise là-dedans aussi.
Oui, c'est ça.
Dans l'idée qu'il faudrait... aller effectivement vers une progression.
Oui, mais c'est oui, le progrès, tout ça. Construire.
De grandir,
être adulte.
C'est ça, c'est l'expression, je trouve, extrêmement.
Avancer. Bon. Il ne s'agit pas de chipoter sur les mots, quoi. Quand les gens disent ça, j'avance pas, bon, on comprend ce que ça veut dire, quoi. Mais quand même, le fait, ce ne serait pas la même chose s'ils disaient « je ne tiraille pas ». Ce serait un peu bizarre aussi. Mais... Quoi ? Oui. Mais c'est vrai que les gens ont des modèles... des façons de parler qui forcément renvoient à des modèles de pensée qui font obstacle quand même.
Mais des modèles de pensée qui ne sont pas non plus sans avoir été induits par une certaine conception de la psychanalyse.
Absolument, bien sûr.
Et une certaine expansion aussi, bien sûr, mais vraiment.
Oui, ben oui.
Notamment avec les enfants.
Oui. Oui, on a affaire au retour de ça, particulièrement maintenant, aujourd'hui, parce que bon, c'est vrai que dans un temps, il y avait, comme il y avait, l'analyse était assez, enfin, il y a eu une période de gloire, quoi, de l'analyse, et que bon, mais aujourd'hui, c'est, comme vous dites, c'est plus le cas, et donc ça oblige à, pas à considérer déjà comme acquis, enfin, comme partagé, comme ça, et que, et qu'en fait, qu'ils sont remis en cause, mais elles ne sont pas remises en cause. Enfin, les remettre en cause, ce n'est pas chercher du nouveau pour évacuer le passé, parce que Freud et Lacan sont toujours actuels, donc ce n'est pas se révolter, comme disent aussi certains, se révolter contre les maîtres, enfin, toutes ces choses-là. C'est pas ça, quoi. C'est... Non. Vous avez envie de dire quelque chose?
Non, c'est très, ça me passionne. C'est, je trouve ça, c'est cette réversibilité comme ça.
Ouais.
Il y a plein de situations finalement où on n'est pas dupe et on joue les dupes ou on fait le dupe parce que c'est beaucoup plus. Enfin, où on peut se servir des deux à la fois finalement. C'est aussi ce que permet l'analyse, c'est qu'à la fois on n'est plus dupe et en même temps il vaut mieux être dupe parce que c'est peut-être comme ça qu'on est aussi. Qu'on ne revendique pas, qu'on n'est pas dans une espèce de revendication de... Là, il y a de la castration qui est passée, du coup. On est dupe et non dupe, mais peut-être les deux à la fois, quoi. Et on se sert de ce qui nous... On peut jouer les deux quand ça nous intéresse, quoi.
Oui, mais en même temps, on n'a pas la maîtrise.
Ben non.
Ça.
D'après-coup.
Voilà.
C'est aussi qu'il y a eu des moments où c'était bien de l'être ou de ne pas l'être. Enfin, c'est souvent un effet d'après-coup qu'on s'en aperçoit. On a été dupe d'une situation mais qu'on a voulu l'être enfin sans savoir, quoi.
Ouais.
Ça, c'est dans les noms du père où la campagne hein, comme ça. Par rapport au mariage, quand tu parles de la duperie, est-ce que l'époux, la femme, je ne sais plus comment il dit ça, mais il fait comme ça une espèce de réversibilité sur l'amour, c'est le mariage, et puis en fin de compte, enfin, je ne sais pas, enfin, il faudrait que je retrouve ça, mais c'est, je crois que c'est dans les noms du père.
Je ne vois pas, je ne sais pas.
Au début du séminaire, je crois.
Ah bon?
De la duperie de l'amour au début.
Oui.
Non,
non,
beaucoup de
passages. Beaucoup
de passages. Oui. Et justement.
Dans la série des premiers séminaires.
Oui.
On va verser sur la vie.
Et justement, c'est très élatif ce qu'on dit sur le mariage. C'est très élatif.
Oui.
Vous aviez évoqué les sophistes la première fois.
Oui.
Et Gorgias disait il faut être dupe.
Ah oui.
Sinon, on fait générique.
Ah oui.
Il faut être
dupe. Mais dupe de quoi?
Oui. Dupe du langage.
Ah bon, oui. Ah oui, c'est ça. Oui.
C'est ça l'orateur, la vie politique. Sinon, on fait générique.
Oui.
Sinon, les discours vont sans cesse s'opposer les uns aux autres, mm-hmm. et on n'arrivera jamais à prendre une décision. Il n'y a pas d'autre solution que d'être dupe. Voilà, c'est ça.
Du langage.
Du langage. Je crois que Lacan y fait référence à ça. Vraiment, je crois que c'est dans le pire à propos des sophistes. Il parle des sophistes.
Oui.
Du rapport entre l'analyste et le sophiste. En opposant à Platon.
Oui. Oui, en ce sens, Cassin, effectivement, n'a pas tort de rapprocher Lacan des sophistes. Hein. Mais quand elle dit Jacques le sophiste, elle pousse un peu loin. Quoi.
Oui, oui, non, c'est autre chose.
C'est le bouchon, quand.
C'est autre chose. Pour Lacan, ils pensent bien partout.
Oh, c'est ça.
Je crois que c'est du côté du petit A dans la parole. Parce que Gorgias dit, faut toujours, en grec c'est apathé, une tromperie qui doit s'ajouter au discours. Sinon on ne fera jamais rien. Une tromperie.
Oui.
Là, c'est entre leur et tromperie. Pour ça que...
Qui s'ajoute au discours.
Oui, qui s'ajoute au discours, c'est-à-dire à ce qui est proprement logique.
Oui.
Si on n'a que de la logique, on ne prendra aucune décision.
D'accord.
Il faut qu'il y ait ce quelque chose en plus,
oui.
qui est une sorte de leur.
Oui. Oui, oui.
Sans quoi on ne pourra jamais trancher.
D'accord. Oui. Oui, oui.
Et Lacan rapporte ça au petit A.
D'accord.
Si j'ai bien compris dans le pliant.
D'accord. D'accord. Ouais. D'accord. Ben oui, mais c'est intéressant oui, de relier à ça. Oui. Ouais. Bon, ben. Donc, alors, la prochaine fois. C'est le 12 juin.
Le 12 juin.
Donc on en fait deux. 12 et 19. Hein.
Ah bon ?
Oui, 12 et 19.
Oui.
C'est écrit.
Oui. Oui, oui, mais. C'est le 12 et le 19 juin.
C'est deux mardis de suite.
Deux mardis de suite. Oui, parce que c'est vrai que à l'issue de la première séance, j'ai vu que je prenais déjà du retard. Donc, comment ? Hein ? Ah, c'est une chance.
C'est Broadway.
Mais, voilà, donc je ne terminerai pas pour autant, mais enfin, c'était pour quand même avancer un peu plus. Enfin, on le rappellera sur le site. Sur le
site ou dans le courrier ?
Dans le courrier, oui. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit pour le dire.
Non, parce que là, c'était le courrier de mai. Et
c'est ça.
Donc, dans le courrier de juin, on dira que...
Voilà. Je vous rends ça.
Vous n'en avez pas besoin. Gardez-le,
Parce que j'ai pris
Non, mais moi, je l'ai.
Tu l'as ?
Je l'ai en deux.
Mais c'est bien qu'on passe à deux.
Après, je suis les mardis, je suis. Bah, si Emmanuel est là, ça va parce qu'il me prend aussi son dictaphone.
Ah, c'est top.
Donc, je vais prendre le chien.
C'est génial.
Aussi.
Tu sais qu'avec ça, par contre, je peux l'envoyer en direct.
Oui, mais.
C'est marrant, mais ça marche très bien par ton site.
Oui,
c'est pas en fait.
C'est pas ça, c'est que.
Mais c'est drôle.
C'est pas ça, c'est que. Moi, j'envoie parfois des séminaires de 2 heures, c'est beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop lourd, ça ne passe pas.
Ça passe plus. En tout cas, c'est génial, hein, parce qu'on entend.
Salut Daniel.
Au revoir.
Qu'est-ce qu'on bosse.
Oui, hein.
Hein,
c'est payant. Hein. Attention, ne te trompe pas de manip.